silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, mon cher Damien, j'ai un souci avec mon micro moi, qui bouge, il tourne.
Laisse-le tourner, au pire quand il sera en bas, il ne bougera voilà. plus.
Il n'ira pas plus bas. Oui, tu vas bien, Damien ?
Ça va bien, et toi ?
Bah écoute, oui, tu vois, c'est mon micro qui me fait rire. Non, mais je suis contente parce qu'on va retrouver nos auditeurs. On est contente. Merci de nous recevoir chez vous. Et puis, on est content de leur parler de cinéma, voilà, pour les fans de Cinoche.
Ça. Et on va débuter tout de suite avec un film qui est sorti la semaine dernière, mais qui était tombé, qui s'était mélangé dans les papiers,
oui.
que tu n'as pas pu annoncer. C'est un film d'animation qui s'appelle « Les Mésaventures de Joe ».
Oui. Et tu es en train de dire que je mélange mes papiers ? Fais gaffe, hein.
Non,
fais
je
gaffe,
ne dis pas du tout ça. Mais ce papier, il s'était caché. Il s'était caché, comme Joe peut-être, qui a de mauvaises aventures.
Non, j'avais mélangé. J'avais mélangé la semaine. Bon, ben, mes chéris, hein, faut pas m'en vouloir. Mais je l'ai trouvé tellement mignon, ce petit film. Enfin, ça dure 40 minutes. C'est à partir de 3 ans. Ah oui, quand même, c'est rare, ça, à partir de 3 ans. Ouh là là, Naya va pouvoir emmener son petit frère Liwen. Mes petits copains vont aller au cinéma. Mais oui, mais c'est bien, on n'en a pas souvent, hein, à partir de 3 ans. Donc, c'est, voilà, Les Mésaventures, tu l'as dit, de Joe. Alors, en fait, ce film a été, il est sorti, enfin, il a été produit en 1991. Et il nous arrive maintenant. Il nous arrive en France, parce qu'il est slovaque. Ce dessin animé, c'est de l'aventure, de la comédie, c'est pour la famille. C'est slovaque et c'est Vladimír Pikalík, qui est un réalisateur animateur slovaque, qui l'a réalisé. Alors lui, Vladimír Pikalík, il est décédé en 2000, il avait 72 ans. Mais il avait fait beaucoup de films d'animation avant, j'ai regardé... À partir de 1940, dans les années 40, il a fait pas mal de films. Voilà. Et celui-là, moi, je le trouve assez adorable, franchement. Je l'ai dit, il est slovaque. Hein. Il travaillait avec un scénariste, un directeur artistique, pratiquement pour tous ses films, qui s'appelle Joseph Šek, et qui est un slovaque également, mais qui est décédé lui aussi. Mais en 2013, à 92 ans, ils ont fait pas mal de boulot ensemble, des jolis films. Alors là, c'est quoi ? C'est les. En fait, c'est Joé, puisqu'on parle de Mes aventures de Joé, est un enfant à la curiosité et l'imagination débordant, vraiment quoi. Il est toujours prêt à faire des expériences et il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire, mais aussi les catastrophes, ne sont jamais loin. Alors on en a quand même. C'est cinq courts-métrages. Joé veut jouer avec ou sans jouer. Ça dure 6 minutes. Il veut jouer, mais à quoi donc ? Alors, exigeant, il prend une série de décisions infructueuses qui le conduisent à de petites et de grandes catastrophes. Mais il découvre au final que les jouets ne sont pas les seuls moyens de se distraire. Ah, vous voyez, mes chéris, vous pourrez dire à vos enfants, si vous allez voir ce film, comme ça, vous pourrez leur dire, vous voyez qu'il n'y a pas que les jouets pour se distraire. Eh oui ! Il y a plein d'autres choses. Et puis après, il y a Joé à la pêche. Ça dure également 6 minutes. La pêche requiert du temps et de la patience. Mais Joé, parce que c'est Joé, hein, c'est pas Joé arrive avec ses propres méthodes, quelque peu originales. Elles ont de quoi faire honte aux pêcheurs expérimentés. Mais le succès va de pair avec l'envie. Ensuite, on a Joey et la maison hantée. 8 minutes. Au milieu de la forêt se cache une maison abandonnée devant laquelle Joey et ses amis participent à la recherche d'un ballon égaré à l'intérieur. Ils y découvrent dans l'obscurité et la poussière bien d'autres choses. Point de suspension. Et puis on a Joey au zoo. Ça dure 8 minutes. Joey et ses amis se rendent au zoo pour vivre la vie des singes. Mais ils perdent rapidement le contrôle de leur jeu qui va se transformer au final en véritable épreuve de survie. Oh, il nous tarde de voir ça. Et puis le dernier, c'est Joey et les extraterrestres. 10 minutes, ça dure. La curiosité de Joey est sans limite. Son souhait est maintenant d'explorer l'espace, mais attention aux rencontres du troisième type. Oh, ça promet, ça promet. Non, vraiment, c'est mignon comme tout. Et ça rappelle, enfin, je sais pas si beaucoup de gens le connaissent quand même. Je sais pas, Damien, si tu connais Oui Oui, le petit personnage. Oui, oui. Ben voilà. Ben ça rappelle un petit peu ce héros français Oui Oui. Voilà, Joey, il y a quelque chose quand on le regarde faire, on pense à Oui Oui. Voilà, parce qu'il y a la voiture, il y a aussi une voiture, comme Oui Oui. Il y a les copains, comme Oui Oui. Puis il y a l'imagination, comme Oui Oui. J'ai trouvé, moi, je pensais à Oui Oui en regardant Joey. Voilà. Donc, il est sorti. Est-ce qu'on l'a, je crois, dans la région. Il est à l'Aréole, non ?
Il devrait sortir bientôt au cinéma Rex de l'Aréole, oui.
On parle de l'Aréole parce que c'est notre partenaire, hein, bien ça. Sûr. Hein, parce qu'il y a tous les autres cinémas de proximité, vraiment, autour. Il y en a énormément. Donc, voilà. C'est uniquement pour ça que j'ai cité l'Aréole. Voilà.
Les mésaventures de Joey, donc, oui. À retrouver. Et maintenant, ça va être un autre film d'animation japonais. Ça s'appelle un manga, là-bas.
Oui.
Et le film que tu nous proposes s'appelle 7 jours.
7 jours, c'est oui, c'est tout, tout
film
ça.
Film de Yuta Murano.
Oui, Yuta Murano, qui est un réalisateur, scénariste, animateur japonais, qui est très connu chez lui. Hein, pour ses mangas, il a 37 ans, c'est son troisième long métrage. Et 7 jours a été présenté à Annecy, à la sélection officielle long métrage. C'est un manga très très chouette, voilà. Comme d'habitude, hein, les mangas, bon, quand on aime, c'est rare de trouver un manga mauvais quand même, hein, au cinéma. La plupart du temps, ils sont très bons. Celui-là dure 1h28. Donc, c'est de l'animation comédie dramatique. Hein. C'est japonais. La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu'ils ne sont pas seuls à se cacher là. Une femme réfugiée thaïlandaise tente d'échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégée. Alors on a dans les voix, on a Mathieu Dupire. Alors ce sont des acteurs, hein, mais qui sont habitués au doublage justement d'animation. On a Clara Kilischini, Alice Orsat, les trois voix. Les voix sont très jolies d'ailleurs. Les voix féminines sont très douces. Là. Alors, j'avais dit 1h28. Hein. Donc, c'est une adaptation, en fait, hein, 7 jours. Alors, attention, là, pour le titre, quand même, c'est pas de... Alors là, c'est le titre japonais. Bokura no nana no kakon senso.
Parfait, ouais. Parfait.
Merci. Tu vas voir. Il se moque, Michel.
Ah non,
il se moque de moi.
Très bien.
Roman. Le roman est paru en 1985 sous la plume de Osamu Soda. Et alors, lui, à plus de 80 ans d'ailleurs, Osamu Soda continue à mettre en scène, enfin à écrire, enfin oui, à dessiner les aventures de Eiji Kirushi et de ses amis du collège à l'âge adulte dans une série de livres composés d'une quarantaine de volumes. pour un tirage cumulé de plus de 20 millions d'exemplaires. La série Bokura figure encore aujourd'hui parmi les titres préférés des enfants des écoles primaires au Japon. Ce monsieur a plus de 90 ans pour faire tout ça. C'est formidable, ça. Oh, bon sang, on aimerait bien à 90 ans être comme Osamu Soda. Vraiment. Alors, ça, alors le livre a d'abord inspiré un film, hein, en prise de vue réelle. Hein. Il y a eu un film qui est sorti en 1988. Alors, l'actrice principale reprend d'ailleurs le personnage de Hitomi Nakayama dans 7 jours en lui prêtant sa voix japonaise. Ça, c'est les voix japonaises. Moi, j'ai donné les voix françaises tout à l'heure. Donc, c'est une histoire qui lui plaît. Et puis, il y avait 10 personnes pour le travail du scénario, voilà. Donc, entre le réalisateur Yuta Murano et puis le scénariste Ichiro Okoshi. Voilà, ils ont effectué plein de repérages, ils ont fait un travail énorme. Hein. C'est un travail énorme, ces films-là. Hein. Ce n'est pas du tout de la rigolade. Hein. C'est vraiment... Et alors, ils ont fait des recherches dans la région où se déroule le film. Et ils ont questionné des collégiens. Eh oui. D'ailleurs, le réalisateur Yuta Murano s'est rendu en personne dans un lycée pour réaliser des interviews afin de dépeindre de la façon la plus réelle possible les personnages de 7 jours. Alors ça, si c'est pas du boulot, ça, du bon boulot, attention. Ah mais les Japonais, là-dessus, ils sont incroyables. Hein. Les mangas, c'est un travail parfait, quoi. C'est pas n'importe quoi. Il est très beau, 7 jours. 1h28, je l'avais déjà dit. Hein.
Et maintenant, nous allons continuer avec un film musical. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une comédie musicale.
Alors là, c'est un sacré truc, ça.
Film musical frères Larrieux. Ça s'appelle Tralala de Arnaud et Jean-Marie Larrieux. Et peut-être qu'avant d'en parler, on va écouter la bande-annonce.
Ah oui, allez, d'accord, merci.
On
écoute oui,
ça pour se mettre dans l'ambiance et après, on présente le film.
Très bien.
Cet inconnu, se peut-il que celui que j'ai connu soit l'homme qui m'a fait jouir 3 fois?
C'est vrai.
Qui est-il? Je suis perdue. D'où vient-il ce mystérieux inconnu que je connais déjà?
C'est Pat, c'est mon fils, il est de retour.
Un autre homme?
Vite, quelques indices. Si dans tes baskets, tu veux que je me glisse.
Ton grand amour secret, il est de retour.
Barbara? Surtout, ne soyez pas vous-même. Je suis moi. Quand je suis toi. Quand t'es cool.
J'en suis sûre. T'es pas Pat.
Je suis moi. Quand je suis toi.
Qui que tu sois, je te lâcherai pas. Tant que j'aurai pas éclairci ton mystère.
Voilà donc, tralala, la bande-annonce.
C'est bien, hein, c'est
Mathieu Amalric qui chante du disco.
C'est très joli, moi je trouve que c'est très joli.
Vous avez pu reconnaître également Josiane Balasco,
oui.
Maïwenn, oui. Mélanie Thierry.
Bah justement, on va donner
Bertrand
un peu leur nom.
Belin.
Ouais, on les reconnaît. Hein. Mais on reconnaît leur voix parce que là,
ah
on
oui.
écoute simplement.
Tout à fait.
Alors donc, tu as parlé d'Arnaud, oui, et Jean-Marie Larrieux. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas tourné. Puisque le dernier, c'était 2014 ou 2015, L'amour est un crime parfait. Avec Karine Viard, Maïwenn, justement, et il y avait aussi Mathieu Amalric. Ce sont des acteurs fétiches hein, pour ces deux frères-là. Donc, ça faisait 6 ans, quand même, quasiment. Et là, alors bon, Arnaud, lui, il est directeur, réalisateur, scénariste, monteur. Pourquoi directeur ? Il est français, il a 55 ans. Et puis, Jean-Marie, il a 33 ans. Non, Jean-Marie, il a 56 ans, pardon. Si je lui donne 33 ans, il serait content. Il a 56 ans, c'est un réalisateur, scénariste, un acteur français, donc, le frère. Et puis, alors, ils ont tous les deux 33 ans de carrière. Et ils ont quand même 19 tournages à leur actif. Et même Jean-Marie en a un peu plus. Il en a 21 tournages. Ils ont quand même beaucoup de nominations, hein, énormément de nominations, une vingtaine à peu près. Donc ça, c'est une comédie musicale, on l'a compris, en écoutant justement la bande-annonce. Et c'est une, y a une nomination au Festival de Cannes 2021 dans la séance de minuit. Ça dure 2 heures. Hein. Donc il a donc été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2021. Alors, c'est qui Tralala ? On va quand même parler de ce personnage, parce que c'est le nom d'un personnage, Tralala.
Ah oui, c'est carrément son nom.
Ah oui, c'est Tralala, d'accord. La quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme mystérieuse qui lui adresse un seul message avant de disparaître. 2 points, ouvrez les guillemets. Surtout, ne soyez pas vous-même. Fermez les guillemets. Tralala a-t-il rêvé ?
Fais avec ça maintenant.
Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il était, enfin dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Bah non. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu 20 ans avant aux États-Unis. Tralala décide d'endosser le rôle, entre guillemets, le rôle de Pat. Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu. Belle histoire quand même. Ouh. Alors tu as cité des noms tout à l'heure. Ben, y a aussi, alors Mathieu Amalric, bon ben Tralala. Hein. Tu as dit Josiane Balasko, oui, Mélanie Thierry, il y a aussi Maïwenn, Denis Lavant, il y a Jalil Lesper, Galatea Bellucci, il y a Bertrand Belin, il y a Philippe Catherine, oui, Étienne Dao. Ils ont participé tous les deux aux chansons du film, Philippe Catherine et Étienne Dao. Et oui, voilà, donc c'est quand même, c'est à voir. Hein. Bah, ça, bah, je ne sais pas, voir Mathieu Amalric chanter, franchement, j'ai vraiment envie de ça. C'est oui, un grand, bah oui, c'est un grand acteur.
On peut pas dire que sa voix est très musicale.
Ben voilà, il a jamais, de toute façon, sa première fois, il a jamais chanté. Par contre, il a énormément joué. C'est un très grand acteur, évidemment. Il y a pas grand chose à dire de plus. Il est vraiment, c'est un immense acteur, et ça fait plaisir quand même de le voir dans ce genre de rôle. Il nous a pas habitués à ça. Hein. C'est vraiment nouveau, ça. Chouette. Eh ben, on va sûrement se régaler. En allant voir Tralala, mes chéris. Allez,
Larieux, et c'est à retrouver dès aujourd'hui dans vos cinémas.
Oui. Et les frères Larieux n'ont jamais raté un film. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment, attention, c'est du beau, beau cinéma.
Et un autre film qui est très attendu depuis plus d'un an, qui sort enfin au cinéma, c'est le dernier James Bond que vous avez pu voir hier au Cinéma Rex de la Réole en avant-première. Le film s'appelle Mourir peut attendre.
Mais tu l'avais dit d'ailleurs, je crois qu'on l'avait dit
on
ça.
Tu l'avais annoncé. Et donc ça y est, là, il sort officiellement aujourd'hui. Et donc si vous avez loupé la séance d'hier, vous pouvez le retrouver à 15h aujourd'hui au Cinéma Rex, ainsi que toute la semaine à part jeudi.
Ah ben oui, dis, tu as sûrement la bande-annonce là.
Je l'ai.
Et allez, on se met dans l'ambiance, comme tu dis.
Le passé ne meurt jamais. James.
La fameuse musique.
Le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi.
Il s'appelle Savin.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Se venger ? Moi ?
Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres.
Vous êtes en retard.
C'est comme vous voulez. Salud ! J'ai rencontré votre nouvelle 00, une jeune femme vraiment désarmante.
Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois.
James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux.
Bond. Où êtes-vous encore ?
Vous avez déjà piloté ce genre d'engin ?
Absolument pas.
C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu ne te rends pas compte ? Il va tuer des millions de gens.
Tu en réussis pas ? Il n'y aura plus rien à sauver.
Ça déménage. Terrible, terrible, voilà, quelle ambiance.
C'était censé sortir le 11 novembre dernier.
Ah oui.
Et en fait, ça sort là le 6 octobre 2021.
Ah oui, là il y a un retard terrible.
Et donc voilà, sûrement le dernier.
Oui, bah
c'est de Daniel Craig.
Ah oui, c'est le dernier. C'est sûr que c'est le dernier. Mourir peut attendre. Oui, oui. Il l'a dit. Oui. Là, déjà, il s'est fait tirer l'oreille un peu pour celui-là. Hein. Ça n'a pas été évident. Et au fait, le réalisateur, il s'est Kari Joji Fukunaga. Et oui, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie américain. Il a 44 ans. Il a 17 ans de carrière et 30 tournages à son actif. C'est donc un film en fait qui a été tourné, on va le dire tout de suite, hein, en Norvège, en Italie, à la Jamaïque, à Londres et aux îles Féroé également. Alors les îles Féroé, c'est une archipel hein, de l'Atlantique Nord qui est administré par le Danemark. Voilà pour situer. Ça veut dire que pendant ce film, on voyage. On voyage. On suit James Bond et on voyage. Il dure 2h43. Alors ça. C'est le plus long de tous, hein, 2h43. C'est le plus long de tous ceux de Daniel Craig. Là. Ouais. Donc c'est de l'action, c'est du thriller, d'espionnage, c'est américain et c'est britannique également. Et oui, mais on aurait même dû le voir aussi le 8 avril 2020. T'as oublié, il y avait le 8 avril aussi. Ensuite le 11 novembre et puis il y a eu le 31 mars aussi.
Ah oui. Ça n'arrêtait pas.
Ça n'arrêtait pas.
Et finalement, c'est le 6 octobre. Et là, ça y est, c'est sûr, il sort.
Ah ben là, c'est sûr, on l'a. Alors, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Ouais, il n'y a pas pire, hein, les armes technologiques, tu peux désinguer tout le monde, il ne reste plus personne, il ne reste plus rien, même pas la montre je crois. C'est des armes terribles. Et donc, alors, on retrouve... C'est marrant parce qu'il y a le Spectre qui est sorti en 2015, qui est passé à la télévision, là. Et il y avait déjà Léa Seydoux dans Spectre. Et là, elle revient,
Léa Seydoux. On la retrouve, c'est un peu la James Bond girl.
Oui, ben c'est rare, hein, la même actrice dans deux James Bond qui se suivent.
Et elle joue le même rôle ?
Ah ben, il ne faut pas le dire. Mais évidemment, normalement, je pense que ce n'est pas elle la méchante. Le méchant, c'est Rami Malek. On a entendu sa voix à la fin de la...
Oui, Rami Malek, c'est l'acteur qui avait tourné
Malek,
dans...
Oui, pourquoi j'ai dit Malek, c'est Malek.
Dans Bohemian Rhapsody, le film, le biopic autour de Freddie Mercury.
Voilà, exactement. Et qui a eu d'ailleurs un Oscar pour ça. Il a eu l'Oscar pour Rhapsody. On en avait parlé ici, Bohemian Rhapsody à la radio Entre deux Mers.
Et là, il vient jouer le méchant.
Il est méchant, là. Oh, il est méchant, méchant. Et puis, il y a Daniel Craig. Bon, ben voilà. Et puis, on a de grands acteurs aussi là-dedans. Alors, on a Ralph Fiennes, qui est un grand acteur britannique. On a Christopher Waltz. Alors, lui, il est allemand, hein. Il est autrichien, allemand.
Moi, du moins, je l'ai découvert dans Inglorious Bastards, film de Tarantino.
Ah, il est terrible, hein, dans Spectre, il est terrifiant. D'accord. Ah oui. Spectre, c'est la peur pendant tout le film. Hein. Il y a la peur qui est suspendue comme ça, on la sent. Enfin, c'est... Allez, puis là, on a Naomi Harris aussi, on a Ben Whishaw, on a Lashana Lynch, et on a, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'est tout, ça c'est dans les rôles principaux, sinon il y a un tas de gens, hein, évidemment. Tout à fait. Évidemment qu'il y a un tas de gens. Donc c'est vrai que, on a un peu de tout, des Britanniques, des Américains, la Française, bien sûr. On est très content parce que Léa Seydoux a beaucoup de talent quand même. Ça, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, hein, c'est sûr. Et puis c'est tout. Ah oui, alors Kari Joji Fukunaga, quand même, on va le situer un petit peu. Il avait en 2012, par exemple, on lui doit Jenner, hein, qui a eu 9 nominations. C'est le Jenner adapté du roman de Charlotte Brontë, hein, qui avait été publié en 1847, les fameuses sœurs Brontë qui écrivaient. Et il y avait Michael Fassbender dans le film. Alors lui, c'est un Irlandais-Allemand, hein, l'acteur. Et puis il y avait Mia Wasikowska, qui est une actrice australienne et qui jouait le rôle de Jenner. Et moi, j'ai la chance d'avoir le DVD. On peut le trouver, mes chéris, pas cher du tout. Il est vraiment très chouette, très, très beau, ce Jenner-là, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, Jenner. Voilà, c'est donc... on peut l'avoir dans sa vidéothèque sans avoir honte, hein. Absolument. Bon, en tout cas, là, alors Daniel Craig, on l'a dit tout à l'heure, hein, il ne reprendra pas le rôle. Il ne voulait déjà pas, en 2015, là, pour Spectre, il ne voulait déjà pas reprendre le rôle. C'est de Sam Mendes, hein, Spectre. Déjà, il avait dit, non. Puis finalement, il a rempilé. Voilà. Il a expliqué qu'il était resté sur sa fin avec Spectre. Donc, il ne voulait pas finir sur celui-là. Voilà pourquoi il a accepté, justement, de mourir peu t'attendre. Ouais, il ne voulait pas, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait l'avoir un jour en interview, hein, Daniel Craig, pour qu'il nous explique pourquoi il était resté sur sa fin avec Spectre. Alors, Rami Malek, donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on le connaît. Il est, il joue le méchant. Il était ravi absolument d'avoir ce rôle. Hein, ça... Ah oui, vraiment, quoi. Il était très content. Et il le fait très, très bien, si on en croit les extraits qu'on a vus. Et alors, pour la première fois, James Bond conduit une... Attention, parce que ça, c'est important quand même. Une Aston Martin électrique. Électrique. Ah. Pour la première fois, mes chéris, vous rendez compte ? L'Aston Martin DB7.
DB7, oui, la DB7 existe.
5,
DB5,
pardon.
DB5, OK.
C'est la DB5. Et elle est électrique, youpi ! Donc, ça, le cinéma commence à devenir quand même intéressant. S'il fait des choses comme ça, c'est bien. C'est bien s'il utilise justement des véhicules électriques, ça, c'est très, très bien. Ah, mais oui. Alors, en fait, Sam Mendes aurait dû normalement, lui qui a réalisé Spectre, aurait dû normalement réaliser Mourir peut attendre. Il n'a pas voulu.
Alors pourquoi ?
Il n'a pas voulu. On ne sait pas. C'est pareil, il faudrait qu'on puisse l'interviewer quand même. Hein. Il n'a pas eu envie. Voilà. Alors, il y a Danny Boyle, le réalisateur britannique qui avait été choisi. Il a commencé à travailler sur le film, puis il a démissionné. Pour cause de différends artistiques. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, c'est Kari Joji Fukunaga, pardon, monsieur Fukunaga, qui s'y est attelé. Voilà. C'est lui, finalement, qui a dit, puisque c'est comme ça, je prends les rênes du film. Alors, pour le budget, quand même, allez, on va trembler un petit peu. 250 millions de dollars. C'est le James Bond le plus cher, en fait.
Mais c'est le plus long aussi.
Casino Royale avait coûté 140 millions hein, en 2006. Quantum of Solace, en 2000, c'était 2008, je crois, avait coûté 230 millions. Oui, c'est ça. En 2008, c'était Mark Forster, le réalisateur allemand, qui s'y était mis. Et puis, on a eu en 2012 Skyfall, de Sam Mendes, en fait, réalisé par Sam Mendes, 200 millions d'euros. Et Spectre, quand même, n'était pas très loin, hein, puisque là, c'est 250 millions. Spectre était, en 2015, Sam Mendes, était à 245 millions. Donc, Mourir peut attendre bat le record. Oups ! Eh ben oui ! Oh là là, ce qu'on pourrait faire en France comme film avec 250 millions de dollars, on pourrait faire 10 films. Ouh, mon Dieu.
T'es sûr?
Une dizaine de films tranquilles, quoi, je veux dire. Oh, quand même. Des voilà, petits films sympatoches, quoi.
J'ai toujours impressionné du tarif des,
ah, oui, oui.
Des films.
C'est quelque chose.
Le montant que ça coûte.
Et alors, qui interprète le thème du film? No Time to Die. Eh bien, c'est Billie Eilish, s'appelle, une Américaine de 19 ans. Elle a 19 ans aujourd'hui, elle avait 18 ans quand elle a tourné, justement. Elle est actrice et compositrice. Et elle est devenue, à 18 ans, justement, à ce moment-là, la plus jeune artiste de l'histoire à écrire et à chanter le titre principal d'un film de la saga 007. Eh ouais. Sa tête est une sacrée petite bonne femme, ça, quand même, hein, pour qu'il l'ait choisie.
C'est sûr.
Oula! Alors, ça, c'est pour la petite histoire. Daniel Craig, il est né en 68. Il est le troisième acteur le plus âgé des Bonds. C'est-à-dire qu'il a 53 ans. Roger Moore avait 57 ans. Dangereusement vôtre, hein, en 1985. Sean Connery avait 53 ans pour Jamais plus jamais, en 1989. Donc, il est le troisième, 53 ans, voilà. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'il avait envie aussi peut-être de passer à autre chose. Parce qu'à cet âge-là, il va pouvoir quand même continuer à faire du cinéma. Mais peut-être dans un autre genre.
D'autant plus que ça doit être des films assez physiques.
Oui, mais justement, oui. Et puis bon, il a envie de faire autre chose, à mon avis, c'est ça. Parce qu'à 53 ans, il est jeune quand même encore, de nos jours. C'est quand même pas, c'est pas très vieux, quoi. Donc j'espère pour lui, parce qu'il a beaucoup de talent quand même, qu'on le reverra dans d'autres films. Alors pendant le tournage, ça c'est aussi pour la petite histoire, pour l'une des scènes finales qui se passe en Jamaïque, Daniel Craig s'est blessé à la cheville. Alors il a, Mourir peut attendre, a attendu un petit peu, mais pas tant que ça en fait, hein, parce que bon, il a eu une petite opération de rien du tout, un petit truc mineur, et il est revenu tourner 2 semaines plus tard, comme si rien ne s'était passé. Alors que la cheville quand même, hein, ça fait pas du bien ça. Ça devait quand même pas être très 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 rigolo. Je crois que c'était notre bébel, Jean-Paul Belmondo, s'était blessé comme ça aussi à la cheville dans un des films. Je sais pas si c'était pas le Magnifique. Il me semble, en tombant d'un escalier, on a revu la scène plusieurs fois quand il y a eu des hommages sur son cinéma, et quand il dévalait un escalier, et il s'était aussi fait très très mal. Mais je crois qu'il avait, lui, il avait quelque chose d'un peu plus grave à la cheville, et il a continué, quasiment, il ne s'est quasiment pas arrêté, il avait continué avec cette douleur à la cheville. Ça, c'était Bebel. Ça m'a rappelé ça quand j'ai pensé, quand Daniel Craig, quand j'ai vu qu'il s'était blessé à la cheville, j'ai pensé à Jean-Paul Belmondo, qui avait eu la même histoire, mais qui ne s'était pas arrêté, lui, du tout. C'était pas son style de s'arrêter, n'est-ce pas? En tout cas, mes chéris, allez vous détendre quand même, hein. Franchement. Mourir peut attendre, voilà. Puis vous allez voyager, Norvège, Jamaïque, Italie, tout ça. Voilà, on voit plein d'endroits en plus. C'est chouette. Voilà. Et puis on verra le méchant qui s'en sort très très bien. Mais c'est vrai qu'il est bien, ce Rami Malek là. C'est un sacré acteur quand même. Hein. Pour jouer comme il joue là. Il a un visage terrible d'ailleurs. On le voit par moments quand. Il a un regard terrible.
Et il avait des yeux un peu globuleux et du coup, c'est vrai que.
Mais il n'y a que de bons acteurs dans ce film. C'est important aussi ça. Il n'y a que de bons acteurs. Ça, c'est quand même, hein, ça permet de savourer le film quand on sait que les acteurs sont tous bons, quoi.
Et maintenant, on continue avec un film français de Rachel Lang 2. Ça s'appelle Mon Légionnaire.
Oui.
Et on écoute la bande-annonce.
Oui, mon âge.
Je serai à la tête de la première section de la deuxième compagnie. Situation familiale, j'ai un enfant de 7 ans et mon épouse est avocate.
Moi, j'ai un message avec Mist.
C'est un choix qu'on a fait ensemble et j'assume les conséquences.
Des questions? Des soucis? Des angoisses? RS?
Je pense que ça va très très bien se passer, tu sais.
Dans mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont.
Je suis heureux d'être là.
Non, pourquoi t'es pas là?
On vous demande pas d'avoir envie de téléphoner. Pour ceux qui ont une femme qui attend, c'est un ordre.
On n'a plus connecté de tout. Quand même, je suis très amoureuse de lui.
Mais au moins, tu sais pourquoi t'es là.
Je savais que c'était pas envie d'être marié à un légionnaire.
Légionnaire de Rachel Lang.
Ça barde aussi, mais c'est pas le même style. Hein. C'est pas James là. Hein. Non. Là, c'est pas bon.
C'est pas romancé quoi.
Non. C'est un drame français et belge de Rachel Lang, donc tu l'as dit, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 37 ans. Elle a 10 ans de carrière et 4 tournages à son actif. Et en fait, le film a été très bien reçu, hein, puisqu'il a 3 prix et 8 nominations, dont 2 prix, mention spéciale du jury pour Ina Maria Bartet, on va parler d'elle après, c'est une actrice, 3 nominations. Le film a le Valois du scénario, ça c'était au Festival du film francophone, d'Angoulême, et un prix Fondation Gannes pour le cinéma, et 2 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021 pour Rachel Lang 2. Et oui, donc il a été bien reçu par les festivals, par les médias. Il dure 1h47. Et c'est quoi alors? Ils viennent de partout. Ils ont désormais une chose en commun, la Légion étrangère, leur nouvelle famille. Mon légionnaire raconte leurs histoires. Celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France et celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile. Alors on a Louis Garrel, on l'entend à un moment donné, Louis Garrel, on reconnaît un peu sa voix quand même. Il y a Camille Cotin, Louis Garrel, donc c'est le légionnaire. On a, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres légionnaires là, mais c'est le rôle principal. On a Ina Maria Bartet, alors c'est elle hein, qui a eu la mention spéciale du jury à Angoulême. C'est une actrice lituanienne. Elle est de Lituanie. Et puis on a un acteur ukrainien, Alexandre Kurznetsov. Et c'est pareil, là, on va un peu dans tous les pays. Hein. On a Naïdra Ayadi. C'est une actrice française qu'on connaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, dès qu'on la voit, si on n'a pas retenu son nom, on reconnaît son visage. Elle a beaucoup de talent. On a Jean-Michelangeli, on a Edwin Gaffney. Alors lui, c'est un acteur américain. Edwin Gaffney. On a Grégoire Collin. Lui, c'est pareil, on le connaît. Excellent acteur. On a Jean Le Pelletier, qui est un acteur belge. On a Lucie Debay aussi, actrice belge. Elle est connue. Quand on la voit, c'est pareil. On la reconnaît, on l'a déjà vue. C'est un très joli casting. Beaucoup de talent aussi dans ce film. Alors elle, Rachel Lang, 2. Je dis 2 parce qu'entre parenthèses, elle marque 2. Hein, elle possède un rapport particulier avec le milieu militaire. Quand elle avait 19 ans, alors qu'elle voulait partir en voyage au Brésil et qu'elle cherchait un petit boulot pour payer son billet d'avion, La réalisatrice, enfin la future réalisatrice, est tombée sur une annonce de recrutement qui proposait une formation pour devenir soldat de réserve. Alors elle nous dit « J'ai découvert pendant 2 semaines un monde très différent du mien, quelque chose de fort, et je me suis donc retrouvée réserviste pendant 2 ans. J'ai quitté l'armée le temps de ma formation à l'IAD en Belgique. À l'issue de mes études, j'ai décidé de me réengager et de me former pour être officier. Là, un autre monde s'est ouvert encore. » Alors pour être concrète, en fait, elle dit qu'elle a géré pendant plusieurs années au quotidien 40 soldats de réserve affectés à différentes missions. Lorsqu'on est soldat, dit-elle, on a en quelque sorte un corps docile, pour reprendre l'expression de Foucault. Être officier, c'est autre chose. Il y a une lourde responsabilité dans le commandement. Oui, même si on ne connaît pas grand-chose à l'armée, on se doute bien que de commander n'est pas très aisé quand même. Hein. Quel que soit le régiment d'ailleurs, ça ne doit pas être facile du tout. Alors quand elle était en mission, en fait, elle s'est retrouvée dans des situations hors du commun, dans un milieu où les mots, les engagements, fraternité, danger, etc., prennent un sens singulier. La fraternité, eh bien oui, et le danger, eh oui, bien sûr. Elle s'est très vite posé des questions sur ce qui avait amené ces femmes et ces hommes à choisir le métier des armes. Ben peut-être comme elle, hein. C'est peut-être, elle a dû certainement faire le parallèle. Enfin, pour le rôle de Céline, elle voulait, le rôle principal féminin, elle voulait une femme forte et indépendante. Elle a donc choisi Camille Cotin. Nous, on l'aime beaucoup, Camille Cotin. C'est une grande actrice quand même. Hein. On parle souvent d'elle d'ailleurs parce qu'elle tourne. Elle tourne énormément. Tant mieux, elle fait une très belle carrière. C'est très, très bien.
Et elle est notamment partie aux États-Unis depuis quelque temps et on a parlé d'elle avec le dernier film de Matt Damon.
Oui, ah ben oui, on a parlé il n'y a pas longtemps.
Stillwater.
Oui, on a parlé d'elle. Le gars qui revient parce que sa fille est en prison en France, parce que sa fille est en prison et qu'il veut l'innocenter, enfin la rendre, faire en sorte qu'elle soit innocente, qu'elle soit reconnue innocente. Oui, elle est dedans, oui, effectivement. En Stillwater, ouais. Ah oui, non, mais elle a fait une très belle carrière, hein, Camille Cotin. Mais elle a beaucoup de talent aussi, hein, en même temps. Bon, c'est pas un hasard non plus. Hein. Alors là, par contre, il y a une nouvelle terrible concernant ce film. La fameuse actrice là qui a donc eu ce prix là, qui est la mention spéciale du jury, qui s'appelle donc Ina Marira Bartet, est morte en avril 2021. Dans un accident de la circulation, j'en bégaye, moi. Elle avait 25 ans. Ça, c'est un drame qui suit le film, ça. Ça, c'est terrible quand ça arrive juste à la sortie d'un film comme ça. Eh bien, oui, c'est ça, quoi. Voilà, donc je pense que... Je voulais pas plomber l'atmosphère, hein, mais bon, je préférais en parler parce que... Quand vous irez voir le film, mes chéris, vous la verrez vous saurez au moins qu'elle a joué dans un beau film, qu'elle était douée, voilà. Et que c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est comme ça, la route, c'est terrible. Hein. Alors le choix de Louis Garrel, bon, bah, il joue le rôle de Maxime, hein, le rôle principal. Ce n'était pas évident, nous dit la réalisatrice. Puis finalement, bon. Il avait l'âge, il avait la carrure. Alors qu'en fait, rien ne le rattachait à cet univers, il a tout de suite brillé par son intelligence du texte, dit-elle, sa capacité à incarner les mots de Maxime tout de suite, sans filtre. Moi, je ne suis pas surprise, parce que je pense que c'est un grand acteur, jeune mais grand acteur. Il a une très belle carrière aussi. Et ça ne va pas s'arrêter là, certainement. Il est d'une famille d'acteurs, hein, Maurice Garrel, tout ça. Voilà, il est d'une famille de grands artistes. Alors, pourquoi pas ? Voilà, donc, il a été coaché. Hein, il a eu un coach sportif et un coach militaire pour faire ce film. Eh oui. Donc, attention, hein, ça, il s'est bien entraîné, Louis Garrel. Et puis, je disais, j'ai nommé Grégoire Collin tout à l'heure, il joue le chef de corps dans ce film. Il a déjà goûté aux joies de la Légion dans un film qui est sorti en 1999 qui s'appelait Beau Travail de Claire Denis. Il y avait Denis Lavant, il y avait Michel Subor, Mona Lisa, Nicolas Duvauchel dans ce film qui avait eu un prix au César 2001 de la meilleure photographie. Donc Grégoire Collin est un habitué du costume de légionnaire. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce beau film. Mon légionnaire.
Mon légionnaire. Et maintenant, ça va être un autre film que tu nous proposes. Un film de Camille Aynouz qui s'appelle Cigare au miel.
Oui.
Cigare au miel, c'est ça.
Elle sentait le souffle de Karim contre sa joue. Sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps.
Tu viens de passer l'oral ?
Ouais. Et toi, t'es en quelle année ?
En dernière année. Ça fait qu'il ne reste que quelques mois pour vivre le grand amour.
Ah. J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment.
Je t'ai jamais rien demandé, moi.
Tu peux glace chaudasse pour une robe.
Ben, je vais y aller, moi. Pourquoi j'ai jamais rien droit
tu
de faire comme
pas,
tout le monde.
Tu ne cries pas, les voisins n'ont pas besoin de t'entendre.
T'as peur de ce que pensent les autres, les Français, c'est ça?
Je te comporte comme dévergondé.
Tu veux que ton père nous quitte?
T'es pas bien.
Arrête.
T'es pas bien.
Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés.
Vous m'arrangez quand même une rencontre, là, tout de suite. Tout autre genre.
Ah oui, tout autre genre.
C'est un drame français, belge et algérien. Il dure 1h36. C'est de Camille Aynouz. C'est une réalisatrice scénariste française. Elle a 45 ans. Elle a travaillé comme scénariste beaucoup, longtemps avant de réaliser, notamment sur LOL USA de Lisa Azuelos en 2012. Elle était scénariste là-bas. Voilà, le film a été présenté au festival de Venise Days en 2020 et au festival il a été présenté au festival du film de Cabourg 2021 et au festival du film d'Angoulême 2021. Alors, il y a un avertissement, hein, on note tout de suite, des scènes, des propos et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est important quand même de le noter. Selma a 17 ans. Elle vit dans une famille berbère et laïque à Neuilly-sur-Seine en 1993. Lorsqu'elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise à quel point les diktats du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que Selma décide de découvrir la puissance et les dangers de son propre désir, l'équilibre de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme émerge dans son pays d'origine. Alors c'est Zoé Adjani qui joue le rôle de Selma. C'est titré d'ailleurs, Zoé Adjani est impressionnante. Alors on peut tout de suite dire qu'elle est la nièce d'Isabelle Adjani. Bon, elle dit qu'elle a très peu de rapport avec elle, qu'elle la voit une fois par an. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est son propre talent qui l'a propulsée au cinéma. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, voilà, elle n'a pas bénéficié d'un petit coup de pouce. Très bien, hein, ça prouve qu'elle a du talent, hein, puisqu'elle a été choisie, entre autres. Ce n'est pas son premier film, hein, elle a déjà eu 2-3 petits rôles. Et puis on a Amira Kazar qui joue sa maman, oh, qui est une actrice formidable, on la connaît. Le père, c'est Lies Salem qui joue le rôle. On a Louis Pérez, c'est Julien. Ce fameux garçon provocateur. On a Idir Schender, on a Axel Granberger, qui est un acteur suédois et monégasque. Bizarre, ces deux nationalités comme ça. Monégasque, pourquoi pas, suédois et monégasque. Eh bien, comme ça, il peut aller un peu partout. Alors, pourquoi ce titre, au fait, Cigare au miel? Eh ben, c'est facile à expliquer. Le film tire son titre d'une pâtisserie algérienne. Eh ben oui, moi j'ai déjà mangé ce genre de gâteau. Pas toi, Damien, tu connais pas ?
Non.
C'est des gâteaux qui ressemblent à un cigare, on peut dire ça comme ça, mais bon, couvert
comme
de miel.
Comme les cigarettes russes.
Voilà. Et à l'intérieur, il y a de la pâte d'amande, ou c'est selon, et c'est très bon, mais pas pour le tour de taille.
Très raffiné.
Pas pour le tour de taille. C'est moins bon. Mais c'est délicieux, c'est très raffiné, absolument. Donc, c'est, ben oui. Alors, elle nous dit d'ailleurs, la réalisatrice, on sent bien que Selma a un rapport à la nourriture qui n'est pas toujours sain. On ouvre sur cette boulimie de cigares au miel. Ben, c'est-à-dire que quand on en a mangé un, j'ai fait l'expérience, difficile de ne pas manger le deuxième, et le troisième, et le quatrième. C'est terrible. Avec un thé, oh là là, c'est terrible. Ce plaisir de bouche, nous dit-elle, est évidemment une compensation. Le rapport exagéré à la nourriture me paraît percutant dans des cultures où l'on essaie d'étouffer la sexualité. C'est-à-dire qu'elle remplace ce qu'elle ne peut pas avoir en sexualité par ces fameux gâteaux algériens, quoi. Cette pâtisserie. Oui, alors voilà, donc c'est un très beau film. Hein. Ça parle, en fait, Cigarette au miel parle d'opposition à une éducation libérale, mais coercitive. Dès qu'il s'agit de la sexualité d'une fille de la famille. Eh oui, c'est ça, surtout. Hein, c'est un sujet autobiographique pour la réalisatrice qui a dû accepter de souffrir et de faire souffrir autour de moi, dit-elle, en faisant sauter des diktats archaïques. Cet aspect-là est autobiographique. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu. Bon, hein, ou pas, bon, c'est pas... Mais ça relève de la sphère privée. Évidemment, elle ne va pas nous parler de ce qu'elle a vécu réellement. Mais je me suis bien sûr nourrie d'expériences personnelles pour fabriquer ce film, mais c'est la transformation de ces expériences qui a du sens. Très beau film, avec un joli casting. C'est vrai que pour Zoé Adjani, franchement, ça vaut le coup d'aller la voir. Les autres aussi, évidemment, ils sont tous excellents, c'est un beau casting. Mais Zoé Adjani, moi, je ne la connais pas trop. J'ai envie de la découvrir, cette actrice.
Et on va continuer maintenant avec un film d'Arab et Tarzan Nasser qui s'appelle Gaza, mon amour.
Gaza, mon amour, c'est joli comme titre, ça. Gaza, mon amour, c'est une comédie, puis il y a du drame aussi. Alors attention, c'est français, c'est allemand, c'est portugais, c'est qatarien et c'est palestinien. Tout le monde s'y est mis. Ça dure 1h28. Alors c'est une co-réalisation d'Arab Nasser et Tarzan Nasser. Ce sont des jumeaux, des frères jumeaux. Ils ont 33 ans, hein, ils ont l'âge du Christ tous les deux. Ils sont réalisateurs, scénaristes. Alors lui, Arabe, il est chef décorateur. Et Tarzan, lui, il est réalisateur, scénariste, acteur. Ils sont palestiniens, donc. Ce sont des jumeaux qui sont originaires de la bande de Gaza. Ils sont nés un an après la fermeture des derniers cinémas à Gaza en 1988. Eh oui. Eh oui, ça, on n'en parle jamais, mais les cinémas ont fermé, effectivement, à Gaza, en 1981, un an après. Oui, c'est ça, en 1988. Ouais. Plus de cinéma. Alors, c'est quoi ? C'est l'histoire d'Issa, qui est un pêcheur de 60 ans et qui est secrètement amoureux de Siam, une femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche. Il décide de la cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent l'existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa. Là, on peut mettre un point d'exclamation. Ah oui. Alors, on a surtout des acteurs israéliens, en fait. Hein. On a Salim Do, qui joue Issam. On a Yam Abbas hein, qui joue Siam, qui est aussi une Israélienne. On a Maïssa Ab Eladi et dans les rôles principaux. Et on a Manal Awad. C'est un film à voir, je pense. C'est une curiosité. Ces frères jumeaux, ils sont peintres, ils sont cinéastes et ils vivent à Paris après avoir fui Gaza où ils sont menacés de mort pour avoir fait des films comme par exemple en 2016 Dégradé. C'était une comédie dramatique, une ode à la féminité, à l'humour décapant. Ouais. Donc, ils sont menacés de mort, donc ils vivent à Paris. Ils sont assez joyeux. D'ailleurs, quand ils sont interviewés, ce sont des gens, des hommes extrêmement joyeux. Voilà. Comme quoi, hein, même quand on est menacé de mort et qu'on doit fuir son pays, on peut quand même garder une joie de vivre. Peut-être que c'est grâce au cinéma, d'ailleurs. Et puis, ils sont peintres aussi. Des artistes complets. Gaza, mon amour!
Et pour terminer les films, ça va être un film de Stéphanie Chuat et Véronique Raymond qui s'appelle Petite Sœur.
Oui, Petite Sœur, c'est un drame suisse. Oui, bah oui, il y a aussi des drames suisses. Il n'y a pas que le chocolat en Suisse, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi des drames en Suisse. Ça dure 1h39. Oui, co-réalisation, Véronique Raymond, réalisatrice, scénariste, actrice suisse. Elle a 50 ans, Alors, elle a déjà eu un prix et 6 nominations. Elle. 14 ans de carrière, 6 tournages. Et on la connaît, en fait, en 2011, pour la comédie dramatique La Petite Chambre. Très, 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 très joli film qui a été très bien reçu, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de prix. Et puis, c'est la deuxième réalisatrice, puisque c'est une co-réalisation, c'est Stéphanie Chuat, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice, metteuse en scène. Elle est écrivaine également, elle a 50 ans aussi, elles ont le même âge. Elle est suisse, elle a 21 ans de carrière, 7 tournages et un prix et 6 nominations également, puisqu'elles ont travaillé ensemble. C'est quoi Petite Sœur ? C'est l'histoire de Lisa. C'est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer, de se sentir vivante. On a dans le rôle principal une actrice allemande qui est très connue là-bas chez elle, c'est Nina Hoss, qui joue le rôle de Lisa. On a Lars Eidinger, qui joue le rôle de Sven, qui est également un acteur allemand. On a Marthe Keller. On est content de retrouver Marthe Keller, qui est une actrice suisse, hein, au fait. Marthe Keller, eh oui. On a Jens Albinus, qui est un acteur danois. On a Thomas Osternier, qui est un acteur allemand. Et on a Isabelle Kaya, qui, elle, on la connaît, elle. C'est une actrice américaine, mais on la reconnaît. Si on est habitué au cinéma, quand on la voit, on la reconnaît. Isabelle Kaya. Là, joli film, Petite Sœur. Hein. En fait, c'est la thématique de la gémellité. Hein. Ce lien qui unit les personnages de Lisa et Sven et que Véronique Raymond et Stéphanie Chuat partagent. Elles ne sont pas jumelles, mais elles partagent, elles ont le même âge. Et c'est cette thématique qui est à l'origine de Petite Sœur du film. Nous nous connaissons, nous disent les réalisatrices, depuis l'âge de 10 ans. Nous étions à l'école ensemble, nous avons traversé ensemble nos années d'adolescence et partagé très tôt la passion du théâtre et de la création. Notre relation ressemble beaucoup à celle des deux protagonistes. Voilà pour donc Petite Sœur.
Petite Sœur, et maintenant tu voulais évoquer quelques documentaires.
Oui, 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 oui. Alors, oui, bah, j'ai dans les documentaires, alors j'en ai deux qui pourraient se ressembler, parce que ça parle un peu de la même chose, si on peut dire. Il y en a un qui s'appelle Thérèse. Alors, c'est Thérèse de Lisieux, hein, on va le dire tout de suite, qui a eu 7 prix et 9 nominations d'Alain Cavalier, réalisateur, scénariste, acteur. Alors lui, il a... Et bah, actuellement, bah, il ne tourne plus depuis quelques années, il a 90 ans. Donc quand il a réalisé Thérèse, c'était en 1986, parce que c'est une date de reprise hein, de Thérèse, qui est sortie en 1986, il avait 55 ans à ce moment-là, et la reprise se fait en version restaurée, bien entendu. Si vous êtes intéressé par Thérèse de Lisieux, eh bien, c'est le moment justement d'aller voir cette version restaurée. Beaucoup de prix, hein, énormément de prix, je l'ai dit, c'est historique, c'est un biopic, c'est français. Et puis, alors c'est l'histoire de Thérèse Martin qui entre au Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans. Ses sœurs, d'ailleurs, seront toutes religieuses. Hein. Elle a 5 ou 6 sœurs. Et ça se passe au 19e siècle. Hein. On est bien d'accord. Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités du couvent, son désir de perfection, la mort de son père, les privations et le manque de soins altèrent sa santé. Elle lutte à la fois contre la souffrance physique et l'épreuve de la foi. Elle meurt de tuberculose à l'âge de 24 ans, en laissant un cahier où elle raconte sa petite vie, entre guillemets. Il est traduit dans le monde entier. Sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Alors c'était Catherine Mouchet, enfin elle existe toujours, l'actrice Catherine Mouchet bien sûr, c'était elle qui tenait le rôle de Thérèse. C'était vraiment, elle avait 27 ans à l'époque, c'était un second rôle incontournable, hein, Catherine Mouchet, quand on parle d'elle, voilà. On avait Aurore Prieto, on avait Sylvie Abbot, Ghislaine Mona dans les rôles principaux, les rôles des sœurs d'ailleurs. Donc, pour Alain Cavalier, si, mes chéris, si vous aimez ce réalisateur, vous pouvez retrouver en DVD une rétrospective Alain Cavalier, c'était, qui est sortie en 2012. Il y a une vingtaine de films nominés là, qu'on peut voir. Quand on aime ce réalisateur, ça vaut la peine, quoi. Voilà, donc effectivement, Thérèse est vénérée à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle a été béatifiée en avril 1923 par Pie XI. Elle a été canonisée en 1925 par Pie XI également. Elle est nommée docteur de l'Église en 1997 à Rome par Jean-Paul II. Et on l'a fête le 1er octobre. Voilà. On fête Thérèse. Vous savez tout sur Thérèse de Lisieux. Et puis j'ai Fatima. Voilà, c'est pour ça que je disais tout ça. C'est un peu le même... il s'agit de Fatima au Portugal, bien sûr. C'est un drame historique portugais de Marco Ponte Corvo, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie italien. Il a 54 ans, lui, 22 ans de carrière. Alors, ça se passe au Portugal, c'est en 1917. Il y a trois enfants, il y a deux filles et un garçon, d'ailleurs, qui sont bergers de Fatima et qui racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants, mais également attirer la colère des représentants de l'Église et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d'un miracle. On avait Sonia Braga, Joaquim de Almeida, on le connaît lui, Harvey Keitel, Lucia Moniz. Voilà. C'est inspiré d'une histoire vraie, hein, ce Fatima-là. Voilà, puis il y avait... Bon, ben là, on avait Delphine et Carole, Insoumuses. Pas Insoumise, hein,
Insoumuse.
C'est Insoumuse. Ouais. Documentaire français et suisse de Callisto McNulty, qui est une réalisatrice, scénariste française, elle a 31 ans. C'est un chouette doc, j'avais noté en marge. Chouette documentaire d'1h18. C'est la rencontre entre l'actrice mythique Delphine Seyrig et l'artiste Carole Roussopoulos qui nous conduit au cœur du féminisme des années 70. Caméra, vidéo au point, elles vont s'engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d'humour. Carole Roussopoulos, je rappelle que c'était une féministe réalisatrice suisso-française, pionnière de la vidéo. Elle a réalisé plus de 120 documentaires. Elle est aussi une figure de l'histoire LGBT. Elle est décédée à 64 ans en 2009. Et Delphine Seyrig, elle, malheureusement, est décédée en 1990 à 58 ans. Elle était très, très jeune. Grande comédienne de théâtre et de cinéma.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties cinématographiques. J'invite les auditeurs à aller faire un tour dans les cinémas, soient de proximité ou autre.
Tout à fait.
Va dire qu'en Entre-deux-Mers, on est servi par les cinémas associatifs. Donc, n'hésitez pas à les aider, ceux-là.
Ah oui.
Merci
tout
beaucoup.
À fait.
Les émissions sont en podcast disponibles sur le site de la radio www.re2m.com. Et on se retrouve mercredi prochain à 11h.
Mais oui, sur Radio Entre-deux-Mers, bien sûr, on sera ravi de vous retrouver, mes chéris. Au revoir, Damien. Merci pour ton aide, pour ton soutien. Et vous, mes chéris, écoutez, passez une bonne semaine. Soyez heureux. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Prenez soin de vous et de votre entourage, quand même, toujours. Et puis, n'oubliez pas, je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
grands yeux, tu sais.